Interview.
2 jours.
Eh bien, bonjour à tous. Je suis en compagnie d'Anne-Marie et de Patricia Janodier. Nous sommes samedi 20 mai, lendemain donc de la conférence que Patricia Janodier a donnée dans le cadre des rencontres de Lucandiwa, donc vendredi 19. Le titre de sa conférence étant « Écouter la folie ». Alors, quand on dit « Écouter la folie », ça sous-entend peut-être quelqu'un qui la connaît ou qui l'appréhende. Donc nous allons, pendant une vingtaine de minutes, parler autour de ce thème et aussi l'aborder à travers deux éléments qui sont des éléments littéraires, hein, les essais qu'a réalisé Patricia, et ainsi qu'une qu'un mensuel. Je l'interroge.
Un annuel.
Parution
annuelle.
Une parution annuelle, voilà. Et je vais lui laisser d'ailleurs donner le titre de cette annuelle.
Les nouveaux cahiers pour la folie.
Et la folie, bien sûr, c'est une chose qui nous interroge tous et qui nous a fait parler, donc hier soir. Cet entretien est destiné pour un petit peu vous faire connaître avant que vous écoutiez cette conférence, ou vous l'avez peut-être déjà écouté, vous écoutez cet entretien après. Voilà, un petit peu faire connaissance avec Patricia et puis la faire parler autour de ce qui s'est passé. Déjà lui donner un petit peu, je vais peut-être lui donner la parole, lui faire rentrer un peu dans cette discussion à travers comment s'est passée cette soirée, la soirée du 19. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel ressenti vous en avez eu?
Eh bien déjà, je tiens à vous remercier. Christian et Anne-Marie, pour cette invitation à Lucandiwa. C'était dans une ambiance très agréable. Avant de parler du contenu, on peut parler de l'ambiance. Et donc dans une ambiance accueillante, avec à la fois une diversité des gens qui sont là, des types de réactions, des intérêts, des questions qui peuvent être posées, et à la fois une certaine fluidité, un type de liant quoi, qui fonctionne, et qui est certainement lié au travail de l'association, hein, et à l'engagement des uns et des autres. Donc c'était une soirée agréable, bien que nous ayons parlé de questions qui ne soient pas en elles-mêmes agréables, comme la folie.
Très douloureuse, des questions très douloureuses.
Oui, oui, oui. Des questions qui venaient de différents horizons. Et ça va avec la question de la folie. C'est-à-dire que ce n'est pas univoque, hein, on dit un terme qui regroupe un certain nombre d'expériences, d'interrogations, d'inconnus, et ça se décline de différentes manières. Il y avait notamment une question sur pourquoi garder, reprendre, selon le terme de folie, alors qu'il y a d'autres termes, peut-être un peu plus techniques, et qui bousculent un peu moins. Et j'étais contente que cette question vienne, parce que donc elle était dans le titre de la conférence, « Écouter la folie ». Dans les deux récits cliniques que j'ai publiés, pour lesquels vous m'aviez invité, « Zone frère » puis « Hors zone », le terme de folie est employé de manière récurrente. Et dans la revue, qui est là un travail collectif qu'on évoquait, eh bien, le terme de folie est à l'honneur. Et la personne qui posait la question demandait pourquoi pas plus utiliser le terme, par exemple, de maladie mentale, qui semblerait moins stigmatisante, ou en tout cas moins bousculée intimement que le terme de folie. Et c'était vraiment posé dans un sens constructif, hein, de comment aborder les personnes qui sont le plus concernées par cette affaire de folie de la manière la plus constructive. Hein. C'était vraiment posé dans ce sens-là. Alors, pour ma part, j'ai fait le choix opposé. Comme tout choix, c'est contestable, mais je m'y tiens depuis quelques années. Évidemment, ça dépend des lieux, termes qu'on utilise, ça dépend avec qui, pourquoi. Donc j'utilise le terme de maladie mentale dans certains contextes, j'utilise le terme de psychose dans certains contextes, mais qui renvoie plus à quelque chose de médical. Et s'il y a de la souffrance et que la question du soin est importante, quand on parle de folie, ne pas la négliger cet aspect-là, pour autant ça n'en fait pas le tour. Et il y a quelque chose qui nous dépasse dans la folie, et c'est une affaire qui est liée à la culture occidentale depuis le début, depuis les, voilà, parmi les plus anciens textes dont on dispose. C'est là comme une question pour chacun. Alors pas pour chacun au même titre, hein, mais pour chacun. Voilà, donc dire ce terme, c'est dire qu'on a à y voir, les uns et les autres pas de la même manière, mais qu'on a à y voir avec ça.
Dans vos ouvrages, vous faites y a une sorte de bipolarité, si, ouais. si je puis m'exprimer
allez-y,
ainsi.
Allez-y.
Puisqu'on a effectivement une relation clinique, ouais. d'un cas clinique, en tous les cas dans Zone Frère, ouais. et puis une deuxième partie où cette partie clinique, non pas s'oppose, mais est complétée par un deuxième volet qui parle d'une partie plus intime, c'est-à-dire d'une expérience plus intime. Il y a une sorte de relation un peu comme ça en miroir, qui est l'une éclairant l'autre et renvoyant, c'est les deux parties se renvoyant une sorte de réflexion. Voilà, c'est peut-être aussi pour inviter les gens qui écouteront cet entretien et ceux qui écouteront la conférence et qui entendront d'ailleurs à cette occasion des extraits de Zone Frère, peut-être à aller plus loin et aller peut-être jusqu'à investir entre guillemets dans l'achat de cet essai.
Alors, il y a non seulement deux axes, mais il y en a trois, ou trois fils. Trois fils qui donnent lieu à un certain tressage. Donc c'est une sorte de risque d'écriture, hein, et en même temps une logique qui s'est imposé, les deux quoi. Il y a le fait d'y aller, de franchir le pas, avec l'écriture, en tout cas telle qu'un certain nombre la pratique, il y a du risque, mais aussi suivre à mesure la logique de ce qui est là. Et donc, c'est-à-dire pas commencer en disant il y aura trois fils, mais il y a un certain type de recherche qui est homogène à l'enjeu de la chose quoi. Donc il y a effectivement un fil clinique qui se déploie, et donc sous la forme d'un récit clinique. Ça m'importe que ça puisse se lire comme une histoire et que ça puisse être lisible par des gens qui ne sont pas du métier. Donc c'est le choix de dire les choses d'une certaine manière dans quelque chose qui se raconte aussi, mais se branche là-dessus en même temps, alors différemment dans les deux ouvrages, hein, mais dans les deux ouvrages il y a un tressage. Dès qu'on se met à parler, alors disons du symptôme, ce sera un des seuls termes techniques, peut-être le seul. Dès qu'on investit ce qu'il en est du symptôme en clinicien, ça veut dire qu'on élargit un peu le terrain de la chose, on le déplace un peu, on l'étend un peu, il y a une sorte d'extension du champ du symptôme. Elle peut être minime, et on peut appeler plus précisément symptôme, non pas ce qu'il y avait avant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant, il n'y a pas d'avant, c'est ce qui peut se produire quand ça commence à se traiter dans ce champ-là. Donc il y a une forme d'élargissement du champ du symptôme. Pas seulement une plainte, quoi. Hein, c'est plus qu'une plainte. Et dès le moment où ça commence à s'élargir, ça va toucher le champ du politique. Donc dans le récit clinique dont il est question dans Zone Frère, ça se passe en Mauritanie. Donc je suis amenée à rendre visite à la demande initiale d'un frère et d'une sœur. Alors frère, qui est le membre dit fou de la famille, est enfermé depuis 20 ans. Ce qui est donc voilà, une tranche de temps considérable. Et dans ce temps passé ensemble, il va s'en suivre un certain nombre de choses avec les membres de la famille, avec Hamza lui-même, et ça va donner lieu comme ça à des déplacements et des fragments de récits qu'on n'attendait pas, qui surviennent et qui s'agencent. Donc ça, c'est le fil clinique, on va dire, ce récit-là. La manière dont des fragments de récits qu'on n'attendait pas surgissent et s'agencent, ça va aller toucher, sans faire exprès, mais de manière un peu inévitable, la dimension du politique. Ça, c'est le troisième fil. Ou le premier. Enfin, on ne sait pas par où il faut commencer à les compter. En l'occurrence, là on est en Mauritanie, on est avec une ethnie soninké, donc il est question de pouvoir et d'affrontement entre Maures et soninké, et il est question de la guerre entre la Mauritanie et le Sénégal, et donc, qui concerne plus spécialement cette ethnie, avec plus spécialement à souffrir. Et voilà, de manière un peu inévitable, dès qu'on déploie ce qui ressort en travaillant, on va aller toucher à ces points-là de l'histoire familiale, bien sûr, au sens de la petite histoire de chacun, ça s'articule dans ces moments de la grande histoire, mais donc en somme, on vient toquer à la porte de la grande histoire aussi. Pas pour en traiter en historien, ça c'est... on n'est pas compétent à la manière, je veux dire, pour vraiment prendre le recul de... Mais qu'il y a cette entrée-là, via un certain déploiement du symptôme, qui vient aussi toucher la grande histoire, et certains moments particuliers, bien sûr. Et en même temps, pour que ça prenne et se produise et nous surprenne, ça suppose que un clinicien ou quelqu'un qui est en position de clinicien, ils mettent une part d'intime. C'est rien de nouveau de dire ça, je veux dire, c'est l'expérience partagée. Par contre, j'ai pris le parti de déplier aussi, c'est-à-dire de pas raconter comme souvent un récit clinique en se mettant en position comme si on avait été observateur. Quelque chose qui se passe, et en mettant de temps en temps une touche d'émotion, ce qui dit déjà un certain nombre de choses. Mais j'ai pris le parti d'y aller carrément dans le déploiement de ce qui concernait une part d'intime, donc, et en l'occurrence de mon propre frère qui était psychotique. Et donc il y a ce stressage-là, et qui était avec la dimension de découverte qui a pu se produire, donc de déplacement du symptôme initial. C'est pas de guérir le patient, parce que ça fait 20 ans que... Par contre, ça permet de rejouer la question de la frontière avec un peu plus de souplesse. Bon, en l'occurrence, déjà, d'ouvrir la porte de la chambre fermée, de parler de choses impossibles à évoquer, et de remettre en circulation tant la personne, l'individu, qu'un certain nombre de dires, de fragments de récits, comme on veut, de mémoire, des choses comme ça. Voilà ce qui se produit à peu près. Et donc, dans le même temps, ça se négocie en trois parties, mais je veux dire, les trois sont toujours là. Dans le même temps, il est question de ce qui m'implique dans cette affaire.
Une question me traverse l'esprit à travers ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Est-ce que les deux essais écrits, en tous les cas Zone Frère par exemple, aurait pu être écrit de manière différente par un psychiatre, et uniquement psychiatre, ou par un psychanalyste, uniquement psychanalyste. Est-ce qu'il y a, pour les gens comme celui qui t'interroge, cette question, qu'est-ce qu'il y a de complémentaire entre un psychiatre et un psychanalyste? Ces deux disciplines interagissent. Voilà, c'est une question peut-être... je ne sais pas ce qu'elle sous-entend comme réponse, mais voilà, c'est une question qui m'intrigue. Voilà, donc je me permets de la poser.
Donc ça va être une question que je propose de prendre par ailleurs, puisque précisément, c'est des choses dont j'ai choisi de ne pas traiter dans ces livres. J'ai écrit pas mal de choses théoriques avant et à côté. Je continue à publié dans des journaux, dans des revues professionnelles. Mais avec ces essais, je choisis de le tresser, c'est le mot, autrement que par ses voix d'abord, en l'occurrence par la voix de l'écrit. Et alors, plutôt que psychiatre, psychanalyste, ça correspond à quelque chose, mais c'est pas là-dessus que je me suis arrêtée. J'ai choisi, pour ma part, depuis quelques années, d'employer le terme de clinicien au sens élémentaire du terme, c'est-à-dire un clinicien, c'est quelqu'un qui s'implique d'une certaine manière, qui fait partie du symptôme. Voilà. Donc c'est une définition très simple. Ça permet de considérer comme clinicien, il y a des gens qui n'ont pas forcément connaissance de la psychanalyse ou qui ont certaines idées qui... Donc moi je me situe comme analyste, c'est... Voilà, C'est d'ailleurs dit, enfin, en quatrième de couverture, je sais, c'est présenté comme ça. Mais pour autant, il y a quelle que soit la profession de départ, hein, du professionnel, quelqu'un qui est disposé à se laisser mobiliser de cette manière-là, ça ne veut pas dire forcément émouvoir. Ça peut être émouvoir, mais pas seulement émouvoir. Hein. C'est-à-dire, la meilleure manière et la plus simple, c'est de dire faire partie du symptôme. On peut considérer que c'est un clinicien au sens élémentaire du terme. Bon, le sens élémentaire pouvant être le sens noble. Hein, puisque de là, il y a un certain champ de travail qui s'ouvre et qui est spécifique. C'est simple et c'est spécifique. Et il y a des gens... cette manière de travailler, c'est une manière psychanalytique. Si on s'engage après dans des choses plus complexes, voire très complexes. Mais ce point de départ, c'est une chose qui est qui se pose un acte. Et ça peut être de quelqu'un qui n'est pas psychanalyste. Parce que ce n'est pas son parcours. Et puis peut-être que ça va l'amener à le devenir, ou peut-être pas. Hein. Donc j'ai choisi cet axe-là. Et c'est comme ça que dans ces deux livres, notamment, je parle du clinicien. Pour référer à cette position élémentaire et pas à un statut social. Qui par ailleurs ont leur validité, leur intérêt, leur questionnement. Mais voilà, j'ai choisi ça. Et ça permet de suivre un fil d'écrit. Parce que sinon, on est dans d'autres débats, souvent stériles. Alors, j'ai pas très envie d'y rentrer.
D'accord. Donc, clinicien sous-entendrait que potentiellement, si on a une capacité d'écoute extrêmement attentive, tout le monde est potentiellement clinicien.
Clinicien, c'est au sens du professionnel qui accepte de faire partie du symptôme. C'est pas seulement écouter. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche au corps aussi. Et qu'ensuite, une certaine voie d'élaboration.
Ben, nous allons conclure cet entretien. Je suis convaincu que ces quelques paroles auront permis à ceux qui viennent de les écouter d'aller découvrir la conférence et je les invite également à se rendre chez leur libraire le plus proche, donc la librairie Mosaïque en l'occurrence, pour découvrir le livre de Patricia Giannoni. Merci et à bientôt.
Chaque matin, quand je vais dans mon centre, je vais prendre le train de bon matin, puisque c'est le matin. Et puis j'arrive dessus le quai et je m'amuse bien, je fais des croche-pattes à des fourmis. Et puis je monte dans des wagons de première, ça c'est super. Y'a des grands-mères qui montent dedans, y'a des affoles. En attendant qu'il y ait du monde, et ben je lèche les vitres, c'est super, ça a bon goût, vous devriez essayer. Moi j'aime bien, je suis mongolien, je trouve ça comique, je suis trisomique, alors voilà. Les grands-mères, elles montent dedans, je leur arrache leur chapeau, elles brisent trop rien, je suis mongolien, c'est super, les grands-mères. Un peu après, le train démarre, et le paysage aussi. Je regarde passer les vaches, ou c'est elles qui me regardent, j'ai pas trop bien, mais on s'aime bien. Je suis mongolien, je trouve ça comique, je suis trisomique. Et puis aussi le contrôleur qui arrive, il me dit rien lui, parce que je suis mongolien. Pas besoin de carte. Un peu après, j'arrive devant mon centre et je rentre dedans. J'aime pas les gens qui sont, ils sont toutes bêtes. Moi je les aime pas, je suis mongolien, c'est tout, voilà. Et c'est pas comique, je suis trisomique. Ma seule copine, elle s'appelle Corinne. Je l'emmène partout, même à l'école, même à la cantine. Ma Corinne et ma copine. À la cantine, quand on a de la purée, je mélange Corinne avec la fourchette. C'est super. Vous dire Corinne, c'est une boule de pâte à modeler, ma copine. Corinne! 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 De temps en temps, il y a des cours de chant. J'aime pas ça, je suis mongolien. J'aime pas la musique, je suis trisomique. Alors quand la maîtresse, elle chante, quand elle fait de la musique, moi je me mets de la Corinne dans les oreilles. J'entends plus rien comme ça, c'est très bien, je suis mongolien. Corinne, Corinne. Je lui ai dit qu'un jour on irait jusqu'à la mer, qu'on partirait. Tous les deux, on monterait dans le train et on irait beaucoup plus loin. On dépasserait le centre et voilà, on irait jusqu'à la mer. Paraît que là-bas, il y a du sable et puis aussi des parasols pour les Mongols. C'est super bien, on peut les arracher. Et ma Corinne, dans son sac plastique, je la sortirai et je la poserai sur le sable et je lui ferai un beau maillot pour qu'elle aille se baigner tout au bord seulement parce qu'elle sait pas nager, Corinne. 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 Et je mettrai du sable dans le goûter. Les petits garçons, ils seront pas contents. Et les parents, ils viendront, ils me diront que c'est pas bien, sois mongolien, que c'est pas bien. Ils me voleront ma seule copine, ma Corinne. Ils la prendront de mes mains, ils vont l'arracher, courir, que c'est sûr. Ils s'approcheront de la mer en riant, moi j'avancerai en les suivant, en pleurant, je m'avancerai, parce que Corinne, c'est ma seule copine. Corinne, ma seule copine, ils lanceront Corinne dans la mer, beaucoup trop loin. Ma pauvre Corinne, c'est pas nager, et je la suivrai, Corinne, j'irai chercher. Corinne, j'aurai de la mer, jusqu'à mes chevilles, jusqu'à mes hanches. Jusqu'à mon torse, jusqu'à mon cou, j'aurai de l'eau. Parce que Corinne, je vais pas la laisser. Ma Corinne, ma seule copine. Corinne! 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 Un coulou! Un coulou!